Ce jour-là est dédié pour l'élévation de l'âme de Esther Tova Bat Rachel Zecher Zechona Levracha de mémoire bénie. Notre paracha, parachat Bamidbar, on commence le quatrième livre de la Torah. Et au début de la paracha, Dieu demande à Moshe Rabbeinu et à Aaron de compter les membres du peuple d'Israël. Et va être aidé par les têtes des tribus. La tribu de Issachar, la tête de la tribu d'Issachar, ça s'appelle Netanel ben Tsuar. Netanel ben Tsuar. Maintenant, c'est intéressant, il y a un beau chidouche là-dessus. C'est écrit dans les Tehillim, Betorat Hashem Heftso, ou Betorato Yege Yomam Valaila. Betorat Hashem, dans la Torah de Dieu, Heftso est son désir. Betorato est dans sa Torah, Yege Yomam Valaila, il étudiera jour et nuit. Au début, on parle de la Torah de Dieu. Dans la Torah de Dieu est son désir, Torah de Dieu. Et après, dans sa Torah de lui, il étudiera jour et nuit. On voit qu'au début, on parle de la Torah de Dieu, après on parle de la Torah de lui. Comment ça se fait? Parce que si quelqu'un, au début, Dieu lui donne sa Torah de Dieu, d'accord, et il commence à étudier comme il faut bien, il apprend, ça devient sa Torah. Par l'étude de Torah, avec peine, parce qu'il faut peiner, alors ça devient sa propre Torah. Ça, on peut voir cela en signe dans le nom de la tête de la tribu de Issachar. Issachar, c'était la tribu où il y avait le plus de Torah. C'était connu, d'accord? Maintenant, la tête s'appelle Netanel ben Tsuar. Netanel, ça signifie Dieu a donné. Ben Tsuar, fils de Tsuar. Tsuar, c'est le mot Tsar. Tsar, c'est la peine. Dieu a donné la Torah, au début ça lui appartenait à lui, il te l'a donnée, et grâce à la peine que tu t'es mis à étudier la Torah, elle devient la tienne. Aude Pérouche. Et donc dans la paracha, on va compter le nombre de juifs qu'il y a dans chaque tribu. Et on va compter aussi à la fin, la tribu de Lévi. Comment ils sont les Lévim? Toutes les tribus, on compte depuis l'âge de 20 ans. Les hommes, dès l'âge de 20 ans, on les met à compter. Avant, on ne les compte pas. La tribu de Lévi, on les compte dès l'âge de 1 mois. Et avec tout ça, ils seront beaucoup moins que le reste des autres tribus. Toutes les tribus, c'est 30, 40, 50, 60 000. Les Lévi, avec les petits-enfants, tout ça, ils sont en tout 22 000. C'est très bizarre, comment ça se fait? En fait, l'histoire est la suivante. C'est que les Lévi, en Égypte, ils n'étaient pas en esclavage. Eux, ils sont restés à Goshen, c'était la partie d'Égypte qui appartenait aux Juifs lorsque Yaakov Avinu est descendu en Égypte. Il a habité là-bas avec sa famille. Beaucoup de Juifs ont quitté cette région et quand l'esclavage a commencé, ben, ils étaient en esclavage. Et les Lévites qui n'ont pas quitté cette région et qui passaient leur journée à étudier la Torah, ils n'étaient pas en esclavage. Les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que de même que les Juifs sont en esclavage, aussi leurs femmes sont à eux. Du genre, nous, les Égyptiens, on couche avec les femmes juives. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour casser cet argument? Il a fait en sorte que chaque femme juive qui tombait enceinte, elle avait 6 enfants. 6 enfants par grossesse. Alors, une fois, ok, c'est fruit du hasard, mais tu vois que toutes les femmes, toutes, elles ont 6 enfants dans chaque ventre. Tu comprends là que c'est le bon Dieu qui a fait ça. Pour casser justement l'argumentation égyptienne comme quoi eux ont couché avec elle, parce que si c'était des enfants égyptiens, il n'aurait pas fait ça à Dieu. On voit qu'il y a un miracle ici. Donc forcément, ce sont des enfants de juifs avec des juives et il n'y a pas d'égyptiens là-bas. Maintenant, les Lévim, qui n'étaient pas en esclavage, il n'y a pas eu le problème où les égyptiens leur ont dit « vos femmes nous appartiennent ». Eux, ils étaient là-bas, ils se cochaient, ils étudiaient la Torah, ils n'étaient pas en esclavage. Donc il n'y avait aucune nécessité de faire ce miracle-là. C'est pour ça qu'ils étaient un chiffre normal, 22 000, d'accord? Les autres juifs, ils étaient 30, 40, 50, 60, 70 000, etc. Parce qu'ils étaient 6 par grossesse. Le Midrash raconte que lorsque Dieu s'est dévoilé au Mont Sinaï, sont descendus avec lui 22 000 anges. Et les anges étaient arrangés d'galim, d'galim. Galim, galim, en hébreu moderne, d'egel, c'est un drapeau. Mais ce n'est pas le vrai sens de la chose. Galim, ça veut dire un signe et aussi ça montre une direction. Et en fait, ils étaient divisés en quatre parties. Trois tribus, trois parties au nord, trois parties au sud, trois parties à l'est, trois parties à l'ouest. Comme ça étaient les anges. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est que cette galim. C'est des choses très très hautes en Kabbalah. Mais c'est écrit dans le Midrash que lorsque Bnei Israël les ont vus, les anges, comme ça arrangés entre galim, ils ont dit, nous aussi on veut être comme ça. Alors Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, bah, arrangez-toi aussi entre galim. Moshe Rabbeinu, il a eu très peur. Il a dit, si maintenant je vais l'arranger, tu vas dire, toi tu vas te mettre ici et toi là-bas, ils vont se bagarrer. Non, moi je veux au nord, moi je veux au sud, moi je veux à l'est, moi je veux à l'ouest, etc. Dieu lui a dit, t'en fais pas. Ils vont pas se bagarrer parce qu'ils ont déjà en signe de comment? De Yaakov. Yaakov, leur ancêtre. Lorsque il est décédé, ils ont pris son corps depuis l'Égypte, ils l'ont amené en Israël, ils l'ont enterré à Hebron. Comment ils l'ont pris? Eh bien, les 12 enfants de Yaakov se sont arrangés. Dieu leur a dit, chacun quel côté vous allez, chacun trois ici, trois au nord, trois au sud, trois à l'est, trois à l'ouest. Et eux, ils savent maintenant, les tribus, que c'est comme ça qu'ils devront. Oui.
C'est Hachem lui-même qui leur a dit.
Ouais, c'est Hachem qui leur a dit. Et ils sauront maintenant que c'est comme ça qu'il faut faire, il n'y aura pas de bagarre. Les commentateurs, ils disent, regarde, on te parle maintenant de personnes qui ont vu Dieu, ils ont vu Dieu au mont Sinaï. Ils ont vu les anges venir avec lui. Ils ont dit, on veut être comme ça. Ah, c'est fantastique, c'est quelqu'un de très 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 grand, d'accord? C'est écrit que David Ameller, il a vu un ange, il a cru qu'il allait mourir, d'accord? David Ameller. Là, tout Bnei Israël ont vu les anges. Il dit, on veut être comme ça. Moshe dit, oui, mais du moment où on va maintenant, il y aura la bagarre. Qui va être à gauche, qui va être à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ça va être terrible. Et Dieu leur dit, non, t'en fais pas, tout ira bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu cet argument que Dieu a dit, qu'ils ont tous vu déjà chez Yaakov Avinu quelle place avoir, ils seraient vraiment bagarrés. Ça veut dire que tu peux être très haut et très bas aussi. Et ça, il faut faire attention. D'accord? On peut arriver à des niveaux, et très bientôt va venir Mashiach, on sera tous à des niveaux très hauts. Il faudra faire attention de ne pas devenir bas non plus, pas se bagarrer avec son voisin pour des places, des choses comme ça. Ça, c'est un exemple de quelqu'un de grand qui peut être petit. Maintenant, je donne un exemple de quelqu'un de petit qui peut devenir grand. C'est une histoire qui est dans le Zohar. Les deux rabbins, Rabbi Chia et Rabbi Yossé, sont arrivés dans une ville, ils sont allés là-bas chez quelqu'un, et au milieu de la nuit, ils sont levés pour étudier la Torah. Et vient la fille du patron de la boîte, de la maison, et leur allume des bougies. Et elle s'est mise de côté comme ça pour écouter ce qu'il parlait. Bon, il parlait du Zohar. Puis après, ils ont vu qu'elle était là. Alors, ils ont dit, oh, c'est quelques bouchidouchim compréhensibles. Et vu qu'elle est venue, et c'est elle qui allume les bougies, donc ils ont parlé de l'importance d'allumer les bougies pour Shabbat, etc., etc. Et là, tout à coup, elle s'est mise à pleurer. Ils n'ont pas compris pourquoi elle pleure. Et le patron est arrivé. Et lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, on est en train maintenant de raconter des chidouchim sur l'importance d'allumer les bougies, et votre fille, elle pleure. Et s'il m'a pleuré lui aussi. D'accord? Ah, ils n'ont pas compris. En fait, il s'avère que sa fille s'est mariée il y a 2 mois. Comment? C'est lui qui a choisi le Khatan. Comment? Il y avait un type qui est venu de Babylonie, il est venu en Israël, en terre d'Israël, et il était sur le toit de la synagogue. Et puis il a entendu qu'il y avait la Khazara. Et qu'il y aurait la Kedusha. Il a vu qu'il n'aurait pas le temps de descendre par les escaliers pour écouter la Kedusha. Alors il a sauté depuis le toit en bas. Il a failli passer, d'accord? Il a sauté pour arriver à temps, pour répondre à la Kedusha à temps. Il s'est dit ça, viens, je te prends comme mari pour ma fille. Tu es un grand sadique, je te prends. Ok, génial, fantastique. Ils sont mariés. Et après, il s'avère que le type, c'était un ignare. Ignare total. Il s'est dit, viens, je t'enseigne un peu des choses de Torah, un peu, voilà, la Gemara. La Mishnah, les brachot. Et la fille qui voulait tellement un mari, Tamil Chacham, et ben, quand elle a entendu maintenant le mérite qu'il y a d'allumer des bougies pour son mari qui étudie la Torah la nuit, elle s'y met à pleurer. Et le père, quand elle a entendu ça, il s'y met à pleurer aussi avec. À ce moment, le mari, il arrive au milieu de la nuit, comme ça. Ah ben, les deux tzadikim là-bas du Zohar, il dit, viens, viens, je veux te voir, maman. Il regarde, il dit, tu racontes des histoires, ce type-là, il serait un grand, grand, grand Tamil Chacham. Alors, le père est super étonné. Et le mari, il dit, oui, effectivement. Je suis arrivé de Babylonie et j'avais peur, je ne savais pas comment elle étudie ici qu'il y a en Israël. Peut-être que je vais ouvrir la bouche et les gens vont me tomber dessus, etc. J'ai dit, pendant 2 mois, je passe pour un ignare, je dis rien. Et la fin du deuxième mois, c'est aujourd'hui. Il a commencé à parler. Et les deux tzadikim l'ont entendu. Ils étaient complètement retournés de voir qu'elle disait des secrets extraordinaires de Kabbalah. Ils ont dit, regardez, votre mari, là, ton gendre, c'est quelqu'un d'extraordinaire. On refait un mariage avec toute la joie cette fois. Ils ont refait encore un mariage avec toute la joie. Et après, ils ont envoyé Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le grand maître de la Kabbalah. Il racontait, oui, moi j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de fantastique qui était là-bas. Racontez-moi un peu qu'est-ce qu'il a raconté. Voilà comment quelqu'un de grand peut être petit et comment un petit, il peut être grand.
Ah,
oui.
C'est dans la Kabbalah, cette histoire ?
Oui, dans le Zohar, c'est écrit. Dans notre paracha, il y a un verset. Vayamot Nadav Vaviyu Lifnei Hashem. Et est mort Nadav et Avihu devant Hashem. Quel problème de ce verset? Le problème, c'est marqué et est mort. C'est un singulier et on parle d'un pluriel de Nadav et Avihu. C'est donc Aaron, il avait quatre enfants, dont deux Nadav et Avihu qui sont morts. Et le texte, il dit et il est mort Nadav et Avihu. Mais on parle d'un pluriel et ils sont morts, pas il est mort. Dans la Torah, une erreur d'orthographe comme ça. Alors le Zohar, il dit qu'en fait, vu qu'ils n'étaient pas mariés, alors ils étaient considérés comme des demi-personnes. Quelqu'un qui n'est pas marié, c'est un demi-personne. Et quand ils se marient, ils deviennent personne entière. Alors vu que les deux étaient deux demi, tu mets deux demi ensemble, ça fait un. Donc c'est un singulier. C'est pour ça que la Torah, elle parle de un singulier. Et on voit, dans le livre de Shemot, c'est marqué Pinchas. Pinchas, c'était leur neveu. Pinchas, c'est marqué Pinchas, il appelait Ben Elazar Ben Aaron. Il était le fils de Elazar, qui était le fils de Aaron. Mais il faut décider, il faut dire Ben Elazar, pourquoi tu me rajoutes un Ben Aaron? Parce qu'en fait, les deux, Nadab Avihu, ces deux moitiés-là, sont allés en Gilgoul dans le corps de leur neveu de Pinchas. Et donc Pinchas, il était pour lui-même l'enfant de son père Elazar. Mais les deux parties qu'il y avait en lui, Nadav Avihu, étaient les enfants de Aharon. Donc le texte, il dit une chose bizarre. Il dit Pinchas, Ben Elazar, Ben Aharon. Voilà, comme quoi c'est une grande mystère de se marier. Bezrat Hashem, préparez-vous, parce que quand Mashiach revient, ça va aller clic-clac. D'accord. Dans le Talmud, c'est écrit qu'il faut se marier à 18 ans et jusqu'à 20 ans. Voilà, donc sachez que quand Mashiach reviendra, ça va aller très vite, Bezrat Hashem. Voilà, on s'arrête ici. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.